Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur histoire vers leur succès. Même si on est déconfiné, je vais faire en sorte de continuer tant que possible les interviews à distance, donc désolé d'avance une nouvelle fois pour la qualité du son un peu moins bonne qu'habituellement, mais je suis heureux de pouvoir continuer à vous offrir des épisodes malgré tout. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Jonathan Lehmann qui se trouve derrière la page Facebook Les Antisèches du Bonheur que vous devez sans doute connaître. Il vient de sortir un livre du même nom et il s'était fait connaître auparavant pour avoir raconté son périple en Inde dans le livre intitulé « Journal intime d'un touriste du bonheur ». Ancien avocat d'affaires à Wall Street ayant sombré dans la drogue et la fête pour oublier son mal-être profond, Jonathan a fini par trouver de la sérénité en quittant ce job qui était très, voire trop bien payé et qui le rendait pourtant si malheureux. Ensemble, on discute de son parcours depuis sa petite enfance, le harcèlement scolaire qu'il a subi. C'est un sujet d'ailleurs qu'il n'avait jamais abordé dans aucune autre interview, donc merci à lui de partager ça. Comment il s'est retrouvé dans ce travail qu'il détestait pour autant et son déclic pour s'en échapper jusqu'à ses études autour de ce qu'il appelle aujourd'hui les sciences du bonheur. Un immense merci à lui d'avoir joué la transparence, même à distance. Et si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à jeter un œil à son livre passionnant et éclairant, surtout si vous débutez en développement personnel. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès et je vous souhaite une très bonne écoute en compagnie de Jonathan. Donc on est avec Jonathan Lehmann. Salut Jonathan.
Salut Fabrice.
On dit Jonathan ou Jonathan, je sais pas, comment tu dis toi?
Jonathan.
Bon alors, salut Jonathan. Jonathan, je suis ravi de t'avoir dans ce podcast pour expliquer un petit peu. Alors si j'ai ton histoire, en gros, c'est t'as été avocat d'affaires à Wall Street, à Paris, puis ensuite t'es devenu entrepreneur web. T'as tout plaqué pour décider de partir en Inde faire un voyage initiatique. Entre-temps, t'as lancé cette page Facebook. Qui a gagné plein de followers d'un coup d'un seul, où tu venais donner toi des, où tu venais partager un peu tes enseignements. Et là, si je me trompe pas, aujourd'hui, enfin il y a quelques mois, t'as sorti ce livre qui s'appelle Les Antisèches du Bonheur, qui était en fait le livre que t'aurais dû sortir il y a 3 ans, qui aurait dû être en fait ton premier livre. C'est ça, si je me trompe pas?
Ouais, non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un livre sur lequel je travaille depuis près d'une dizaine d'années maintenant. Mais qui a été supplanté par un autre projet justement quand je suis parti en Inde et que j'ai fait cette retraite de méditation qui s'appelle Vipassana, de 10 heures de méditation par jour pendant 10 jours. Et l'expérience était tellement incroyable qu'en sortant, il fallait absolument que je la raconte, que j'écrive dessus. Et de là est né un livre qui n'était pas du tout prémédité et donc qui a supplanté ce projet de premier livre qui enfin vient de sortir après 10 ans.
Ok. En gros, l'histoire là, c'est qu'on va retracer justement ton histoire. Ouais. Et en général, la première question que je pose à mes invités, c'est à quoi ressemblait Jonathan quand il avait 7-8 ans.
Jonathan, quand il avait 7-8 ans, il avait du mal à connecter avec les autres enfants. Mmh. C'était un bon élève. Mais qui était mal à l'aise dans son enfance, je crois qu'on peut dire.
Mal à l'aise dans quel sens?
Mal à l'aise dans le sens de je pense que le mental hyperactif qui a été à l'origine de tout ce travail que j'ai commencé avec les Antisèches du Bonheur, c'était un phénomène qui commençait déjà à se manifester. Quand j'étais petit, et qui faisait que j'avais, je crois, du mal à connecter avec les autres enfants qui peut-être avaient pas un mental qui était aussi hyperactif. Je sais pas exactement quelles sont les causes, mais à part ça, j'étais un enfant curieux et un enfant enthousiaste et un enfant joyeux, mais un enfant solitaire.
T'avais pas beaucoup de potes?
Non, j'avais pas beaucoup de potes et surtout je savais pas interagir vraiment avec les autres êtres humains de mon âge. Je savais interagir avec les adultes, mais je savais pas interagir avec les autres êtres humains de mon âge.
T'avais la sensation qu'ils étaient bizarres ou que tu te trouvais bizarre par rapport à eux?
Je pense que j'avais un complexe d'infériorité et de supériorité par rapport à eux. J'arrivais pas à me mettre sur un pied d'égalité. Je pense que ma mère, je savais pas que ça allait être direct thérapeutique, mais je pense que mais allons-y.
Vas-y, raconte ton histoire, alors après, c'est toi qui décides, hein. Je te laisse aller où tu veux aller, hein.
Non, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a des racines là-dedans sur le travail que j'ai fait ouais. par la suite. Mais ma mère est quelqu'un qui a pas du tout été considéré par ses parents et qui a ressenti un vrai déficit de ça. Et ma mère a essayé de faire l'inverse et de m'élever comme si j'étais sorti de la cuisse de Jupiter et de m'inonder de compliments, de soutien, d'attention. Mais je pense que ça a créé des difficultés d'adaptation à ce jeune âge parce que ce que décrivait ma mère sur qui j'étais, ça se vérifiait pas auprès des petits copains.
Ok, tu veux dire qu'elle t'a donné énormément de confiance, mais que cette confiance-là, t'étais pas forcément rendue par tes potos, quoi, c'est ça?
Exactement, c'est ça. Je me disais que j'étais le plus beau, le plus intelligent, le plus extraordinaire et tout, alors du coup, je me comportais comme ça, mais...
T'as la sensation que ça a notamment contribué au fait que tu te sois fait un peu écarté, c'est ça?
Ah ben exactement, okay. Exactement, complètement. Je savais pas. Si tu veux, je vois des enfants de 7-8 ans et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants qui savent interagir naturellement avec les autres enfants, être dans l'empathie, être dans l'écoute, être dans le partage. C'était pas mon cas, hein, je crois. J'étais extrêmement égoïste, autocentré, et donc j'ai dû beaucoup apprendre justement comment mieux me gérer moi et mieux gérer les rapports avec les êtres humains, et à un très jeune âge, sinon j'allais rester isolé.
T'étais enfant unique ?
Oui, j'étais l'enfant unique de ma mère.
Ça doit aider alors.
Pardon ?
Je disais ça doit aider aussi, je pense.
Oui. Enfin, ou au contraire, ouais, ça aide pas, mais ça aide à. Ah oui, oui. Enfin, on se comprend. Absolument.
Ok. Est-ce que t'as vécu du harcèlement scolaire d'une manière générale? T'as la sensation avec le recul ou parce que alors je t'ai pas précisé, mais toi et moi, on a quasiment le même âge. Hein. Moi, je suis né en 77.
Ouais.
Donc, ce qui aujourd'hui est en train de devenir un vrai truc, moi, j'ai subi du harcèlement scolaire, tu vois, au collège, mais personne ne se doutait que c'était du harcèlement scolaire, et mes parents non plus, même quand j'allais voir, tu vois, mes parents leur disant, en fait, je me fais vraiment bolos, ils disaient, c'était poto, ils jouaient avec toi, tu vois.
Ouais.
Est-ce que t'as la sensation que c'était ton cas aussi, de ton côté?
J'ai des mauvais souvenirs. Ouais. J'ai des souvenirs de sortir de classe et de me faire entourer, de me faire taper.
On appelle ça du harcèlement scolaire, ouais. Ouais. Je pense qu'on peut désigner ça comme ça, ouais.
Je me faisais taper dans la cour de récré quand j'étais en CP et j'avais fait venir un CM2 à qui je donnais mes jouets pour qu'il me protège.
Ah putain.
Dans la cour.
Ouais.
Donc ça faisait rire ma mère.
Et oui, mais c'est les années 80, ça, hein. Voilà.
Voilà. Donc, déjà, ma mère était très fière. Elle se disait que je saurais me débrouiller toute ma vie si déjà à l'âge de 5-6 ans j'étais capable de faire des pots de vin pour des. Pour les CM2.
Les années 80, avec un petit ton de mafia aussi derrière.
Ouais, ah ouais.
Éducation à la mafia, super.
Okay. bravo, parce que j'en ai fait pas mal des interviews, mais j'ai vraiment jamais parlé de tout ça.
Ah, bah, bravo, c'est un peu mon objectif. De... Après, c'est toi qui y allais, encore une fois. Hein, tu vois, je t'ai pas obligé à t'amener.
tu m'as poussé un peu, quand même. Mais bon.
Je t'avoue. Ok. En fait, il y a un autre truc qui m'intéresse, moi, dans ton parcours, c'est que j'ai un peu la sensation que, alors, encore une fois, je m'inclus dedans, hein, parce que je pense qu'on a été un peu éduqué sur une comment dire sur un rapport au succès qui est très particulier et qui aujourd'hui est plus vraiment d'actualité, j'ai la sensation, où pour réussir il fallait aussi il y avait aussi un aspect matérialiste, je pense. J'aurais aimé savoir un petit peu quel était le parcours qui t'amène toi à devenir avocat d'affaires, et parce que avocat d'affaires c'est pas anodin, hein, comme destiné, quoi, tu vois. Il y a un moment donné où tu décides aussi d'y aller, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu as la sensation, avec le recul, que tu te lances dans cette carrière là
en fait, c'est une absence de décision qui m'a amené là-bas. Mais si on est de la même génération, toi et moi, tu sais ce qu'on regardait. Je sais pas si c'est pareil chez toi, mais moi, on mettait Dallas et Dynasty au biberon, quoi. Je veux dire, je regardais les films de Michael J. Fox. Je sais pas si tu te souviens ce film, Le secret de mon succès, où il commence dans la salle de courrier, il finit PDG, happy end. Ce que nous disait la culture, c'était clair, non? Dans les années 80, justement, c'était tu veux être heureux, faut que tu réussisses, faut que tu gagnes de l'argent, faut que tu aies du pouvoir, faut que si t'es un homme, tu sois avec une belle femme, faut que tu aies des signes extérieurs de richesse. C'était une culture très différente de celle dans laquelle on vit aujourd'hui. On pouvait dire peut-être dans la sagesse populaire que l'argent faisait pas le bonheur, mais personne ne le croyait, ou très peu de gens le croyaient. Alors qu'on y croit beaucoup plus aujourd'hui. Moi, j'ai vu mon père était à la base avocat, il est devenu entrepreneur, il a eu des très gros succès, il a eu aussi des très très gros revers. J'ai vu les huissiers venir chez moi, il fallait dire Monsieur Lehmann n'habite pas ici. Donc j'avais peur aussi que ça m'arrive. J'avais la conviction qu'il fallait que je sois autosuffisant, que je réussisse, que j'allais pas avoir de filet de sécurité de mes parents. On commençait à parler du chômage à l'époque, donc dans ma tête c'était évident, il fallait que je réussisse. Et réussir, ça voulait dire pour moi avoir une belle situation, gagner beaucoup d'argent. À l'adolescence, ça voulait pas dire plus que ça. Et donc, ce qui se passe pour un adolescent comme moi, c'est, enfin, t'essayes d'avoir les bonnes notes, t'essayes d'être pris dans des bonnes écoles, et j'avais la chance d'être un bon étudiant. Donc, j'ai réussi à rentrer dans ce programme qui était organisé par l'Université de Columbia aux États-Unis, à New York, en partenariat avec la Sorbonne. C'était un truc où ils prenaient deux étudiants par an pour leur faire faire 7 ans d'études de droit en 4 ans. Donc c'était un truc un peu fou, et avec un gros coup de bol, j'ai été pris là-dedans. Mais à partir de là, le chemin vers Wall Street, il était tout tracé. Moi, j'avais aucune intention, en fait, jamais de ma vie, de devenir avocat d'affaires. Moi, tout ce que je voulais, c'était aller à la fac aux États-Unis, suivre dans les traces de mon père qui était américain et qui avait été à Harvard. C'était un peu la mythologie familiale. Et donc, moi, j'avais envie de répéter ça, sans me poser la question de ce qui allait devenir derrière. Moi, je m'imaginais un peu, je pensais que j'allais être une sorte de Jerry Maguire.
Alors, ouais. Jerry Maguire, pour expliquer aux gens qui l'ont pas, c'est un film avec Tom Cruise qui est agent sportif.
C'est ça.
Mais justement, lui, il a une sorte d'épiphanie, et il revient vers une forme de bonheur plutôt, quoi, tu vois.
Mm-hmm. Ouais, je me souviens pas exactement de la fin, en fait. Je me souviens moi de plus.
Eh ben, regarde-le, tu vas voir. C'est hyper intéressant.
Ouais. Mais donc moi, c'est ça que j'imaginais. Mais ce que je savais pas, c'est qu'en débarquant à Columbia, j'avais 20 ans. Moi, je pensais que j'allais arriver dans des campus tels qu'on voit dans les films, tu sais, avec où je me dis qu'elle allait être la fête, que j'allais rencontrer des filles, mais c'était pas du tout. J'étais rentré dans. C'est comme si c'était l'ENA américain, quoi. Ouais. C'était un bastion d'élitisme, de compétition, et qui t'emmenait, à moins que t'aies un plan précis vers où t'allais. 90% des gens allaient à Wall Street. parce que Wall Street venait et te faisait des offres à la Don Corleone, des offres que tu pouvais pas refuser. Moi, j'avais à 21 ans, en stage, je touchais 10 000 dollars par mois.
Mais c'est n'importe quoi.
Non, mais il y a 20 ans.
Ouais.
Et c'est n'importe quoi. Donc, quand tu as un gosse de 20 ans, tu lui balances ça et tu lui dis, bah voilà, viens. Et tu te dis, bah, j'ai pas d'autre idée. Je me rends compte qu'il doit bien y avoir une raison pour laquelle je vais te payer 10 000 dollars par mois. Mais j'ai pas de plan B, puisque je suis un gosse, j'ai 21 ans, j'ai pas d'idée, je voulais réussir, on me propose de réussir, voilà. Donc en fait, c'est comme ça que tu te retrouves un peu par hasard à être avocat à Wall Street.
Waouh. Enfin, un peu par hasard. Parce que quand même, t'as un parcours scolaire qui t'es brillant quoi à l'école, forcément, non?
Oui, non, écoute, j'adorais le droit.
Voilà.
J'étais un pas mauvais lycéen, je m'en suis bien sorti au bac, mais en revanche, quand je suis arrivé à la fac de droit, là, il y a un truc qui a cliqué. Il y a un truc qui s'est passé, c'est comme si c'était une langue que je comprenais déjà. Donc j'ai gagné le concours de plaidoirie, et puis j'ai pu rentrer à Columbia, et j'avais une passion pour le droit constitutionnel, pour le droit pénal, mais avec zéro idée de ce que j'allais faire derrière. La pratique du droit n'a rien eu à voir avec ce que j'avais pu étudier.
Et elle te venait où Elle te venait d'où, tu penses, cet amour du droit d'un coup là qui a cliqué?
Mes deux parents, à la base, étaient avocats et ont arrêté. Donc j'ai fait que une réponse originale, mais j'ai fait un peu que répéter l'histoire familiale. Mon père était passionné aussi de droit constitutionnel. Il me parlait des grandes décisions de droit constitutionnel américain, parce que c'est passionnant, hein, toutes les trucs sur la discrimination, sur l'avortement, et puis les systèmes de justice qui sont si différents, hein. Le système pénal américain qui est très très différent du système pénal français, et ça, c'était des choses qui m'intéressaient beaucoup.
Il y a notamment toute cette histoire de plea deal, c'est ça, où tu peux...
Oui.
Tu peux négocier. C'est assez fou ça, hein, quand on y pense.
Bah oui, non, mais déjà le système est complètement différent, puisque en France, t'as un juge d'instruction qui mène l'enquête et qui est censé être impartial, alors que aux États-Unis, c'est le procureur. Ouais. On dit, je crois, la différence, c'est inquisitorial et accusatorial. Je sais plus, mais
si tu dis, je vais te croire.
Ouais, mais c'est très très différent. Et oui, effectivement, on peut négocier. Ouais, on négocie avec le procureur. On plaide coupable. Enfin, il y a énormément de choses qui sont vraiment très différentes et qui font aussi que voilà, tu peux avoir des histoires comme O.J. Simpson ou avec beaucoup d'argent et tu peux avoir une meilleure justice. Donc je pense que partout dans le monde, la justice n'est pas complètement égale, parce que plus tu as d'argent et plus tu es capable de bien te défendre, mais que c'est particulièrement vrai aux États-Unis.
Ok. Tu restes combien de temps avocat d'affaires à Wall Street?
Je suis resté avocat d'affaires 6 ans.
Ouais.
À peu près 4 ans à Wall Street et 2 ans à Paris dans le même cabinet. Dans lequel j'étais à Wall Street, j'étais prêt à partir, et en fait, ils m'ont fait une offre à la Don Corleone, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans ce milieu, où en gros, ils ont quasiment doublé mon salaire pour me renvoyer dans leur bureau de Paris, pour être un expatrié dans mon propre pays.
Ok.
Donc c'était vraiment un truc, je me suis dit, bon, je vais essayer. Donc j'ai refait un tour de manège.
Et t'étais déjà dans le mal, c'est ça, à l'époque, avant même d'accepter ça?
Mais moi, Fabrice, j'étais dans le mal depuis le premier jour, en fait.
Ah ouais, vraiment, à ce point-là?
Ouais, parce que, si tu veux, j'étais lucide sur le fait que j'avais absolument pas du tout envie de faire ça. Ça ne m'intéressait pas.
Quand t'as 20 piges, tu veux dire, là, quand tu démarres, quand t'es tout jeune. Okay.
Ouais. Ou même quand je commence à 24 ans, parce que j'ai fait, à 20 ans, j'ai fait 2 ans à Columbia, je suis rentré, je commençais à voir le truc qui allait se profiler. je suis rentré en dépression, j'avais des pensées de suicide, mon père m'a dit tu devrais peut-être prendre une année sabbatique, ça va un peu vite tout ça. Et j'ai fait le tour du monde, ce qui m'a ouvert beaucoup de perspectives, mais qui en même temps m'a renforcé la peur que j'étais en train de me diriger dans la mauvaise direction. Et à 24 ans, donc j'ai commencé à Wall Street, je m'étais dit qu'il fallait quand même que j'essaye, mais je me souviens du premier jour dans mon cabinet, on était une nouvelle promo de 70 avocats, je crois. Je sais pas si t'imagines un cabinet d'avocats qui intègre 70 nouveaux avocats la même journée. Donc on était dans le sous-sol d'un immeuble immense à Wall Street. On parlait de règles du droit boursier, de comment parler à sa secrétaire, de tout ça. Et moi, j'étais entouré de gens, j'avais l'impression qu'ils lisaient le Wall Street Journal depuis qu'ils avaient 5 ans et demi, alors que moi, ça m'intéressait absolument pas. J'avais une seule envie, c'était de partir. J'avais envie de partir en courant et de hurler, tu sais. C'est de sortez-moi de là.
Excuse-moi, je te coupe, mais c'est fou parce que tu prends une année sabbatique entre-temps où tu fais le tour du monde. Et en fait, tu as quand même cette intention d'y retourner, en fait.
J'avais l'intention d'y retourner parce que je ne savais pas quoi faire d'autre.
Okay.
Qu'est-ce que tu fais quand tu as des offres mirobolantes et qu'à côté de ça, tu n'as pas une idée claire du tout sur qui tu es et la place que tu dois prendre dans le monde et ce que tu pourrais faire. Donc, tu te dis, je vais essayer, ça va me donner de l'expérience, je vais gagner de l'argent. Je vais découvrir la vie active, je vais essayer ça, vu que j'y suis. Ouais, c'est plutôt comme ça. Et à partir du moment où tu mets le pied dedans, tu rentres en fait dans une sorte de prison dorée, dont il est très difficile de sortir. Parce que tu t'habitues à te balader en limousine et à aller dans les meilleurs restos et à pas te poser la question quand tu rentres dans un magasin et à aller en vacances dans des endroits incroyables Et quand tu as la perspective que peut-être tout ça, ça va s'arrêter, tu te dis que non, c'est bien, t'as pas envie que ça s'arrête. Parce que ça, c'est un aspect qui est évidemment cool. C'est pas du tout la fin du truc. Et au final, quand j'ai tout plaqué, j'ai mis ça de côté et ça m'a jamais vraiment manqué. Mais quand t'es dedans, c'est difficile de t'imaginer vivre sans.
Qu'est-ce qui fait que tu... C'est quoi le déclic qui te fait dire « Ok, c'est le moment, il faut que je me barre ?» Parce que quand même, ça faisait 4 ans, 6 ans, c'est ça tu disais ? 6 ans au total, c'est long 6 ans, le doigt coincé dans une porte.
Ouais, c'est long, c'est très long. C'est très long. Au début de ces 6 ans, j'essaie de me prouver que je suis capable de le faire, que je ne suis pas un imposteur, que je vais réussir parce que j'ai toujours un peu en moi ça et que j'ai ramené au même aujourd'hui dans ce que je fais de ce syndrome de l'imposteur. Tu sais, on va découvrir que je suis une erreur.
C'est fou que t'aies ça malgré toute la confiance dont ta mère t'a abreuvé, j'ai envie de dire.
Ouais, mais tu sais, je crois que le narcissisme qui est un peu le résultat de cette éducation que j'ai reçue. Ça crée un complexe d'infériorité et un complexe de supériorité, les deux. Mais c'est pas une vraie confiance qui est... C'est une confiance conditionnelle, le narcissisme. C'est une confiance... tant qu'on me valide, j'ai confiance. Mais je dois constamment attendre la prochaine validation. Et si j'ai pas cette validation, alors j'ai pas confiance. Donc c'est pas une confiance qui est sereine, qui est organique. C'est une confiance qui est tournée vers l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire ?
Ah, bien sûr. Ah, oui, ouais. Vraiment. J'entends tout ce que tu entends dire, vraiment.
Ouais. En fait, j'ai étudié un peu ça, le trouble narcissique, et c'est intéressant, et tu regardes ça affecte beaucoup de gens, hein, sans qu'on rentre dans des cas cliniques, mais t'as des gens qui manifestent des troubles narcissiques parce qu'ils ont reçu aucune considération de leurs parents, et donc ils vont absolument chercher la validation, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les likes, l'attention, tout ça. Mais le paradoxe, c'est que tu peux avoir le même trouble narcissique par un enfant qui a reçu trop d'attention et de validation et tout, parce que ça crée une dépendance. Et donc ensuite tu vas et quand tu as plus cette validation de la part de tes parents, tu vas la rechercher à l'extérieur, et alors tu peux la rechercher dans les succès, ou tu peux la rechercher dans les drogues. Moi j'ai été dans tous ces domaines là. Donc c'est ça qui est paradoxal en fait. Quand je regarde ma mère, elle a décidé de pas donner la même éducation que elle a reçue, mais au final en faisant l'inverse de ce qui lui est arrivé, je me retrouve avec un trouble semblable au sien. Tu vois ce...
Ah bah oui. S'il y avait vraiment une recette pour éduquer correctement ses enfants sans qu'ils récupèrent une partie de nos névroses ou l'inverse de nos névroses, si tu veux, en tant que parent, ça se saurait, quoi.
Voilà.
Et t'as la sensation, pour boucler sur le syndrome de l'imposteur, que t'es encore aujourd'hui dans ta démarche actuelle, avec tout le travail que t'as fait sur toi, dans un travail sur toi, sur ce sujet-là.
Ouais, mais oui, je l'ai toujours, ça.
Ouais.
Je l'ai toujours, parce que tu sais, ce travail le travail de développement personnel, c'est un travail, j'ai l'impression, il faut montrer l'exemple. Et parfois, je pense que je suis capable de le faire, et parfois, je pense que je ne suis pas capable. D'ailleurs, c'est, je pense, ce qui fait partie de l'ADN de ma méthode des antisèges du bonheur, qui est de dire voilà, j'ai une ombre, je vais vous la montrer, je vais vous parler de choses que j'arrive à bien faire, mais je vais vous parler de mes gamelles, je vais vous parler de mes addictions, je vais vous parler de mes défauts, je vais vous parler de mon narcissisme, je vais parce que ces choses là elles sont vraies, que il y a beaucoup de personnes qui sont des profs de méditation, qui sont des figures dans le développement personnel, qui ont l'air hyper lisse, qui ont l'air parfaite, mais c'est faux. Personne n'est, je veux dire, des êtres éveillés, il y en a eu quelques-uns dans l'histoire, il y en a peut-être par-ci par-là, mais clairement toutes les personnes qui vendent des bouquins de développement personnel, c'est pas des êtres éveillés. Donc si tu parles pas, pour moi, si tu parles pas de ton ombre ce avec quoi tu luttes, c'est comme si tu prétendais implicitement qu'elle n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire?
Ah oui.
Je réponds pas exactement à ta question, mais j'ai tendance à anticiper le syndrome de l'imposteur en disant voilà, je merde. Regardez comme je merde. Donc comme ça, quelque part, j'ai l'impression que ça me prémunit et que c'est honnête. Tu vois? Donc je pourrais pas être déclaré imposteur, être vu comme un imposteur, si moi-même j'avance les choses qui pourraient faire qu'on dise que je suis un imposteur. Tu vois ce que je veux dire?
Ah oui.
Ouais.
Je me demandais en fait comment t'as trouvé le courage de raconter ça, parce que je pense que ça doit pas forcément être un chemin très simple, surtout, alors peut-être que je me trompe, mais venant d'un milieu des avocats d'affaires, Wall Street, etc., où j'ai l'impression que l'apparence est tellement importante et qu'il faut être le plus shiny possible, si tu veux. Toi, quand tu sors ton premier bouquin, tu racontes très clairement ton histoire et tu prends pas de pincettes avec toi, quoi. Tu vois, qu'est-ce qui fait que t'as trouvé le courage de montrer cette vulnérabilité-là chez toi? Comment t'as fait?
Mais tu sais que c'est marrant, les gens me disent courage, et moi je le sens pas. Pour moi, le courage, quelque part, de faire semblant, ça demande un certain courage. Pour moi, c'était au contraire, c'est libérateur de pouvoir dire, ça veut dire tu fais pas semblant de quoi que ce soit. C'est libérateur, parce que c'est un des trucs que j'ai appris, notamment en Inde, et que j'ai compris ces dernières années, c'est que il n'y a pas des cons et des gens intelligents, des méchants et des gentils. C'est pas vrai. On a tous de l'ombre en nous. Tous. C'est pas possible d'être humain sans avoir de l'ombre. Et on porte tous des masques. Et moi, je porte le masque de mec humble et de mec à l'écoute et de mec sympathique et tout. Mais derrière, il y a de la peur, il y a de l'envie, il y a de l'égoïsme, il y a de l'angoisse, il y a toutes sortes de choses qui sont cachées par ces masques. Et à partir du moment où tu comprends que cette structure-là, elle existe chez tout le monde porte un masque qui cache la merde, parce que c'est ça la condition humaine. Et à partir de là, tu dis, bon, bah, on va arrêter de se mentir, quoi. On va arrêter de faire semblant. Et moi, une des choses que j'ai compris à un niveau personnel, c'est que si tu voulais évoluer, si tu voulais augmenter tes capacités de cœur et réussir à mieux connecter et mieux être dans la compassion, et tu devais regarder ton ombre, tu devais l'observer, tu devais l'accepter, que si tu la niais, tu pouvais pas la traiter. Et donc pour moi, la seule manière d'évoluer, la seule manière de devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est de regarder cette ombre et de dire, bah voilà, elle est là et je suis humain et c'est comme ça et on est tous humains. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes bouquins, c'est de dire, je vous montre mon ombre, mais faites pareil, regardez votre ombre et c'est pas grave. C'est pas grave, on l'a tous. Et à partir du moment où on arrête de se pointer du doigt les uns des autres et plutôt on regarde à l'intérieur, c'est comme ça qu'on va mieux réussir à évoluer en tant que famille humaine.
C'est cool. Merci de dire tout ça. Merci de dire tout ça dans mon podcast. J'avais une question aussi, c'est que quand tu quittes ton boulot d'avocat, tu retournes en Californie, c'est ça?
Ouais.
Tu décides de retourner sur les traces de ton père?
Oui, c'est ça. En fait, okay. mon père était tombé malade. Il avait une maladie, une sorte d'Alzheimer qui faisait qu'on ne pouvait plus trop communiquer. Et ça a été un peu ça le déclic qui m'a fait définitivement quitter mon cabinet d'avocat et même la profession d'avocat. Et j'avais envie...
C'était quoi le déclic exactement? Il est motivé par quoi?
Le déclic, c'est de me dire, mais la vie, elle est trop courte. Là, mon père, il est en train de mourir. Qu'est-ce que je suis en train de passer mes journées, mes week-ends, mes nuits à travailler pour des gens que je respecte pas, pour faire en sorte que, je sais pas moi, que AXA, Total et Goldman Sachs économisent de l'argent sur leurs impôts, genre, ça suffit quoi. J'ai autre chose à faire que de ma vie que ça. Et si tu veux, je voulais sauter dans quelque chose qui aurait, je voulais sauter d'une prison dorée à une prison argentée quoi, ou à une autre prison dorée. J'avais envie d'un filet de sécurité, mais il y avait rien qui se présentait. Et donc j'attendais. Et c'est cette maladie de mon père, je crois qu'elle m'a donné un peu la force de tout plaquer sans filet de sécurité, en disant, en faisant confiance à la vie. Et donc ouais, c'est comme ça que je suis parti. Je suis parti en Californie. J'avais envie de le truc que je savais en quittant mon cabinet, c'est que je voulais juste plus avoir de patron. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire et j'avais aucune conscience encore de faire quelque chose qui puisse avoir un impact sur mon prochain. C'était vraiment, je voulais plus avoir de patron parce que j'avais la conviction que j'avais des bonnes capacités, mais que les patrons que j'avais eus, ils avaient aucune idée sur comment m'exploiter. Et que la meilleure personne qui pourrait exploiter ces capacités, c'était moi. Et que donc, c'était insensé que j'ai un patron. Donc, mais je savais pas du tout. C'est difficile de construire une carrière sur ou une vocation juste sur l'idée je veux pas de patron.
C'est en même temps intéressant parce que c'est oui. Déjà tu marques une forme de territoire ou de liberté que t'as envie d'avoir quoi.
Ah ouais ouais c'était et puis je voyais mes parents ils avaient tous les deux été monté des boîtes étaient entrepreneurs. Mon père, il avait monté des parcs aquatiques et c'est lui qui avait monté les premiers parcs avec les toboggans, tu sais, okay. En Europe. Donc c'est lui qui a créé un parc qui s'appelait Aqualand dans les années 80. Moi, je regardais ça et j'avais énormément d'admiration parce que pour l'instant, j'avais été que dans des rails. J'avais été dans les rails de l'école et ensuite dans les rails du cabinet et puis dans les rails de coke.
Bravo.
Elle était même pas préméditée, je te promets, c'est la première fois que je la fais celle-là parce que en la disant, elle était tellement presque liquide, tu vois, que ça faisait genre comme si c'était un truc que je répétais tout le temps, mais je te promets que t'en as la primeur.
Ça fait plaisir. Ils ont dit quoi tes parents justement de ton parcours qui était dans des rails? C'était quoi leur conseil par rapport à ça?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mes parents, ils étaient... Je crois qu'ils savaient pas trop, ils comprenaient pas en fait pourquoi j'allais, parce que surtout le cabinet dans lequel j'étais, c'était un cabinet hyper conservateur. Et mon père, qui était âgé quand j'ai commencé, qui était pas encore vraiment dans la maladie, il comprenait pas trop, mais il était très respectueux, et c'était un autre monde que celui dans lequel lui il avait évolué. Et lui, il était sorti de la fac de droit à Boston dans les années 50. Donc c'était vraiment une autre... Le cabinet dans lequel j'ai travaillé, à son époque, n'embauchait pas de juifs. Alors que moi, je suis juif. Donc même pour mon père, c'était fou que j'aille dans ce cabinet d'avocat. Alors que bon, on est dans une autre période. Aujourd'hui, quand je suis rentré, le chairman de mon cabinet était juif. Et puis la moitié des avocats dedans, comme partout à New York, étaient juifs. Donc c'était pas... Donc mes parents, d'un côté, ils étaient hyper fiers de mon succès, parce que j'avais du succès dans les études et dans le travail, mais de l'autre, je crois qu'ils se demandaient ce que je faisais, quoi.
Ok, donc tu te lances, tu vas en Californie, tu vas pour faire quoi exactement, tu sais pas trop?
Si, pour acheter du temps. Ouais. Je m'étais dit, je vais retourner à la fac. Je vais étudier ce qu'ils appellent aux États-Unis entrepreneurship. Donc, comment monter sa boîte, comment être start-upper. Mon père venait de Californie, j'ai un passeport américain, mais je connais mal, je connaissais qu'en tant que touriste. Et donc, je me suis dit, je vais communiquer avec lui, pas verbalement, mais en allant explorer ses racines à lui. Et lui, il avait commencé sa carrière à Los Angeles, il avait grandi à San Francisco, et donc moi je suis à la fac à Los Angeles. J'ai fait un MBA à UCLA, donc un diplôme de commerce, quoi. Focalisé exclusivement sur entrepreneurship. Donc, sur marketing, compta, stratégie, opération, comprendre tout ce qui tourne autour de comment tu montes ta boîte, qui est quand même le meilleur moyen de pas avoir de patron. j'étais vraiment dans les, et d'ailleurs j'étais sur la promo, on était une promo de 350 à UCLA, j'étais le seul étudiant à ne passer aucun entretien avec aucune boîte. Parce que la façon dont les écoles américaines sont structurées, et c'est comme ça que je me suis retrouvé catapulté à Wall Street 15 ans plus tôt, c'est que, tu sais, les employeurs viennent sur le campus, ils t'embauchent, et puis tu clignes des yeux, et puis tu te retrouves chez eux. Et à Los Angeles, il y avait des employeurs qui étaient super. Je veux dire, c'est des noms qui sont sexy là-bas. C'est la Warner, et Universal, et NBC, et les Lakers. Donc c'est autre chose que les grands groupes de finance et de pétrole. Mais non, j'avais passé zéro entretien parce que je savais que il était hors de question que encore une fois j'ai un patron. Et donc au début je cherchais à monter une boîte, mais à trouver une idée. Ma vie là-bas, c'était de brainstormer avec les autres étudiants, d'imaginer des projets de boîte, aller au concours de pitch pour les nouvelles boîtes. Enfin, j'étais vraiment... Il y a toute une culture des étudiants dans le monde des startups et j'étais à fond là-dedans, à faire des concours, etc.
Surtout que tu étais au pays de la startup, hein, en Californie.
C'est... Oui, oui, en Californie, c'est clair. C'est clair. Et j'ai appris énormément là-bas d'ailleurs. Et en étudiant le marketing... Je me suis retrouvé par hasard, parce que j'avais aucune intention d'étudier ça, à étudier la psychologie. Je savais pas avant d'aller en MBA que le marketing c'était deux choses, que le marketing c'était d'un côté quelque chose de très data, de statistiques, de Excel, de formules, de compliquées et tout. Donc un côté un peu hard de marketing, mais que de l'autre côté, il y avait un côté hyper soft, qui est tout le côté psychologique. Et ce côté-là, il a commencé à me fasciner, et c'est là que j'ai découvert la psychologie cognitive, qui est devenue un des aspects importants de ce que je partage aujourd'hui dans l'étude de la science du bonheur. Et la psychologie cognitive, c'est l'étude de la manière dont les humains prennent des décisions. Qu'est-ce qui pousse l'humain à prendre des décisions? Quelles sont les erreurs de jugement qu'on commet? Comment est-ce que ça fonctionne, en fait, l'esprit, quoi? Et ça a été vraiment très intéressant, et ça a été une sorte de premier pas vers ce que je fais aujourd'hui.
Ok. C'est quoi le pont avec le fait que tu montes cette page Les Antisèches du Bonheur sur Facebook?
Ça a été, il y a eu plusieurs étapes, mais déjà quand je suis arrivé en Californie, j'ai commencé à vivre un peu différemment. C'est-à-dire j'ai commencé à prendre conscience que je me nourrissais mal et qu'il fallait que je me nourrisse mieux.
Bah oui.
Ce que je faisais pas du tout, je mangeais encore des McDo et tout avant de partir en Californie. J'ai découvert le yoga, j'ai commencé à aller au festival de Burning Man. ouais. J'ai été 6 années consécutives, donc c'est même devenu un truc central dans ma vie. Et Burning Man, évidemment, c'est une grosse fête, mais c'est beaucoup plus que ça. Et c'est un endroit.
Juste pour resituer, mais si vous connaissez pas Burning Man, c'est un festival qui a lieu tous les ans dans le désert américain. Et comment expliquer ça? C'est une communauté?
C'est une communauté. C'est un regroupement. C'est une communauté temporaire qui se retrouve dans le désert. Où l'argent est interdit de circuler, donc où tout se passe dans le don. Certains disent le troc, mais ce n'est pas du tout une économie de troc, c'est une économie de don. Ça veut dire que si tu as quelque chose que tu as envie de partager, bah tu vas et tu le partages, et tu le donnes. Et quand tout le monde se réunit et fait ça, tu te retrouves dans un espace qui est inimaginable. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a redonné une foi dans l'humain, t'es dans le désert et tu vois ce qu'ils appellent des véhicules mutants qui sont entre des bateaux et des sculptures et qui sont habillés de toutes sortes de choses, de lumière, tu vois des choses que tu peux même pas imaginer, qui sont le fruit de la créativité des gens qui sont là-bas. Tu vois une explosion artistique, humoristique, de gens qui adorent la vie et qui la célèbre. Et moi, je comparais ça à ce que j'avais vécu jusqu'ici, et je me disais, mais c'est pas, enfin, je me suis trompé de.
Et à quel moment ça a merdé dans mon chemin?
Ben, c'est ça. Et donc, si tu veux, tout ça a commencé à vraiment. Toute cette culture New Age commençait à remuer à l'intérieur de moi. Et il y a eu un gros déclic, ça a été un bouquin. D'ailleurs, c'était une femme que j'ai rencontrée à Burning Man qui m'a recommandé un bouquin. Elle m'a dit tu devrais lire ce livre qui s'appelle Le New Earth, Nouvelle Terre, de Eckhart Tolle. Et j'ai écouté, j'ai dit bon, j'ai pas trop réfléchi et tout. Et ma meilleure amie, qui habite au Canada, m'a redit la même chose. Faut que tu lises ce livre. J'ai dit ok, bon, deux recommandations pour le même bouquin en si peu de temps, je vais y aller. Et ça, ça a été, comme disent les Américains, le game changer. Alors j'ai lu le livre et ma vie a changé.
Qu'est-ce qu'il raconte ce livre de ce bon Eckhart Tolle?
Ouais, il raconte que on est en proie, que l'humain est en proie à un phénomène que moi j'appelle la tyrannie du mental, qui est l'idée que on a un mental qui s'arrête jamais. On a un mental qui crée toutes sortes d'histoires, et que ce dont on se rend pas compte, c'est que on a un mental, mais nous ne sommes pas notre mental. Et que on peut apprendre à se désidentifier du mental. On peut apprendre à mettre le mental à sa place, à remettre le mental à sa place d'objet, plutôt que de le laisser être le sujet de notre existence. Et quand j'ai lu ça, j'ai compris en fait l'origine de mon mal, j'ai compris pourquoi j'arrivais pas à être dans l'instant présent, j'ai compris que ce dont je souffrais, c'est quelque chose dont tout le monde souffre, même si peut-être que j'en souffre un petit peu plus. Et j'ai pas compris pourquoi on n'avait pas parlé de ça auparavant, parce que j'avais l'impression de lire le mode d'emploi de la vie.
Je sais pas, ça sert d'aller à l'école et d'apprendre les maths si c'est pour pas t'apprendre ça.
Mais c'est ça. Je comprenais, de comprendre ce que c'était que l'ego, de comprendre ce que c'était que l'instant présent et pourquoi j'y avais pas accès, de comprendre le processus d'addiction, de comprendre un peu toutes ces choses qui avaient fait partie de ma vie sans que je les comprenne véritablement. Et de voir qu'il y avait une manière de vivre différemment, avec plus de conscience, avec plus d'intelligence, avec plus de générosité. J'étais sûr, en fermant ce livre, que maintenant, ma vie, ça allait être de partager les enseignements qu'il y avait dans ce bouquin. Parce que ça me semblait inconcevable que, quand je parlais autour de moi, personne n'avait entendu parler. Et donc, ce que j'ai fait, et je pense que beaucoup de gens font quand ils découvrent des livres comme ça, c'est que tu veux les offrir à tous tes proches. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça avec... ouais, hein.
Bah oui.
Ouais. Et donc, j'ai acheté 30, 50 exemplaires, je pense, en tout. Peut-être même plus jusqu'à aujourd'hui, des livres d'Eckhart. Mais ce dont je me rendais compte, c'était moi, quand j'ai lu Eckhart, j'avais l'impression que c'était écrit hyper simplement. C'était d'une évidence.
Fluide, quoi.
Ah non, mais j'avais l'impression de lire Picsou Magazine en termes de ce que je trouvais comme complexité. J'ai du mal à lire du Balzac ou du Stendhal ou de n'importe quoi qui a des descriptions de paysages. Ou tu vois, je suis pas forcément un lecteur tout terrain. Donc j'avais l'impression en lisant ça que c'était vraiment d'une simplicité ahurissante. J'ai compris plus tard que ça l'était pas, c'est juste que c'était compatible avec ma manière de penser. Parce qu'il y a beaucoup de gens à qui j'ai filé le bouquin qui me l'ont renvoyé à la figure ou qui m'ont dit que c'était complexe et là c'est là que je me suis dit tiens, il y a peut-être besoin que je rejoigne l'armée d'Eckhart-Tolle, mais que je paraphrase son truc. Il y a besoin puisque il y a besoin de voix. Ce message, il est essentiel. Parce que c'est un message d'amour. L'idée, c'est que si tu arrives à mieux te comprendre, si tu arrives à mieux comprendre le fonctionnement de ton mental et de tes émotions, tu vas mieux connecter avec toi-même, tu vas mieux connecter avec les autres, tu vas moins être dans le jugement, tu vas plus être dans la compensation. Tu vas moins être dans la compréhension, pardon. Tu vas moins être dans la peur et plus dans le partage et la vie va changer. Et donc moi je me suis dit bon ok, je vais pas les gens veulent pas le lire et tout. Bon, je vais paraphraser le truc. Et ce que je vais faire, et j'ai commencé à écrire un bouquin qui était en gros, ça s'appelait How to be good at life et qui était en fait, une chronique ou un mode d'emploi de quelqu'un qui vient de découvrir toutes ces nouvelles choses et qui partage avec d'autres personnes qui rentrent dans ce chemin. Donc, c'était comme une sorte de livre, entre guillemets, grand frère. Tu sais, où je suis pas un prof, mais je suis un étudiant qui a juste une longueur d'avance sur toi. Et je vais partager avec toi ce que je suis en train de vivre et mes gamelles et mes réussites, etc. Et ce livre, c'était l'ancêtre de ce livre qui est sorti juste avant le confinement, Les Antisèches du Bonheur, qui avait besoin de mûrir, en fait. Il n'était pas prêt, j'ai bossé dessus pendant 2 ans. Je l'ai envoyé à l'époque c'était en anglais, parce que je vivais encore aux États-Unis, et je l'ai envoyé à une quinzaine d'agents d'auteurs, c'est comme ça qu'on fait dans le monde de l'édition là-bas, et j'ai eu 0 réponse.
Ah ouais.
Même pas un encouragement, même pas une réponse type et tout. Là ça faisait déjà quelques années que j'avais quitté la business school, que j'avais arrêté mes projets de start-up. J'étais complètement dans ce nouveau projet en fait autour de ce qu'on peut appeler le développement personnel, mais avec 0 succès, avec plus un sou. C'était un moment qui était difficile d'ailleurs. C'était Il y a beaucoup de gens qui m'ont tourné le dos à ce moment-là. Je pense oui, parce que si tu veux, des gens qui m'ont vu être, qui me voyaient comme quelqu'un de brillant, qui avait une belle carrière, une super belle carrière même, mais qui avait décidé de tout plaquer, tel l'enfant gâté qu'il était, et qui aujourd'hui prétendait nous partager des choses sur le bonheur, alors qu'il n'avait pas de job, qu'il n'avait pas d'argent, qu'il n'avait pas de meuf, qu'il n'avait pas d'appart, qu'il était une sorte d'électron libre. Qui allait de canapé de potes en Airbnb à prêcher des choses sur la tyrannie du mental, mais que bon, il est marrant le mec, mais voilà, il a pété les plombs quoi.
T'étais en mutation en fait, ils ont pas compris.
Oui, c'est ça, exactement. Et c'est là que quelques proches, ceux qui m'ont pas tourné le dos, m'ont dit, écoute, c'est pas grave pour ton bouquin, t'as qu'à essayer de faire un blog, va confronter tes idées à des gens. Va voir si et c'est comme ça que j'ai créé la page Les Antisèches du Bonheur sur Facebook. Okay. Et j'ai traduit mes textes, je les ai adaptés dans un format blog. Au début, j'étais pas du tout pour, je disais pas de blog, j'en consommais pas. C'était avant qu'on parle des influenceurs et tout. C'était avant Instagram. Ça me paraissait très bizarre moi de créer un blog, mais c'est ça que j'ai fait. Et au début, c'était un vrai blog, genre WordPress et tout. Et puis ensuite, j'ai compris que c'était une page Facebook.
Okay.
Parce que c'est là que ça se passait. Et voilà. Et cette page, elle a connu une résonance quasi immédiate. C'était fou. Il y avait un vrai besoin en France de plus de voix autour de ces thématiques. Et il me semble de voix, qui soit justement, pour revenir à ce dont on parlait au début sur l'imposteur, qui soit un peu différente de voix qui par ailleurs sont extrêmement importantes et respectables et que j'admire, des voix d'un moine bouddhiste ou d'un grand psychiatre. Je parle de gens comme Mathieu Ricard et Christophe André, qui partagent des enseignements incroyables, mais pour le commun des mortels, beaucoup, on a l'impression qu'ils sont un peu sur leur piédestal, qu'ils ont un peu atteint une forme de sagesse et qu'on sera jamais comme eux. Et donc, ma vie, c'est pas vraiment la même que la vie de Mathieu Ricard. Et je pense qu'il y avait besoin un peu de ce contre-pied, de cette idée de voilà, moi je suis arrivé nulle part. Je suis pas éveillé, mais en revanche, je travaille. Je travaille et ce travail, il fait que j'ai plein de choses à partager. Parce qu'il se passe plein de choses quand on commence ce travail. Et ce que je vais partager aussi, justement, c'est mes échecs. Parce que dans les échecs, il y a beaucoup de leçons, justement, sur cette ombre dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est ça qui a fait, en fait, que... Et puis, c'était un moment aussi où la France commençait à s'éveiller un petit peu à ce qu'on peut appeler la spiritualité, le développement personnel. Moi, quand j'ai écrit mes premières méditations guidées et que je les ai enregistrées, je ne sais plus, c'était il y a 5 ans.
Ouais.
On me prenait un peu pour un fou. Personne méditait.
Ouais.
C'était pas même. On savait pas ce que c'était. C'était. Moi, je l'ai fait parce que quand j'ai découvert Eckhart, j'ai cru que j'étais devenu un être éveillé. Ça veut dire j'ai vraiment eu un moment où j'étais insupportable et je pensais que ça y est, j'avais atteint l'éveil. Et j'ai compris ensuite sur quelque chose qui arrive à beaucoup de gens qui partent sur un chemin. J'ai compris ensuite que non, il n'y avait pas d'éveil, mais qu'il y avait une pratique à mettre en place, et que si je voulais apprendre à gérer mon mental et mes émotions, je n'avais d'autre choix que de faire ces exercices de l'attention que sont la méditation. C'est comme ça que j'en suis venu à apprendre à méditer, et grâce à des méditations guidées que je trouvais sur Internet à la base en anglais. Et quand je suis rentré en France, que j'ai créé cette page des Antisèches, j'ai vu que il n'y avait pas vraiment de méditation guidée en français. Il y avait 3-4 pauvres méditations qui existaient, quelques enregistrements, mais un peu en mode old school, quoi.
Mm-hmm.
Donc c'est comme ça que j'ai commencé aussi à enregistrer des méditations guidées. Et c'est marrant parce que ces méditations, elles m'ont permis d'intégrer mes expériences passées. Je les ai écrites comme si j'écrivais un contrat. Et beaucoup de mes méditations, et notamment les antisèches du bonheur, les antisèches qu'il y a dans le livre, sont écrites comme les clauses d'un contrat que je fais avec moi-même et que j'invite les auditeurs ou les lecteurs à faire avec eux-mêmes. Mm-hmm. Donc, par exemple, la phrase « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux toujours faire de mon mieux ici et maintenant », moi, c'est une phrase que j'avais besoin de me répéter. Ma première anti-sèche, parce que j'avais tendance à être dans la culpabilité, ouais, à être dans le perfectionnisme, à me dire que j'aurais pu faire mieux ou que j'aurais pas dû faire, et j'avais besoin de me reprogrammer le cerveau pour diminuer l'incidence de ces moments dans ma vie. Je sais même plus à quelle question je réponds, là je suis parti
Écoute, je t'écoute. L'un des trucs qui me fascine aussi un peu, c'est que j'imagine que tu découvres la méditation. Peut-être que tu commences à pratiquer, etc. Et tu décides d'aller faire Vipassana, quoi, qui est sans doute l'exercice le plus dur.
Ouais.
Dur entre guillemets, parce que c'est pas. D'ailleurs, je dis exercice, c'est pas forcément un exercice, la méditation, mais c'est une pratique qui est. C'est hardcore, quoi, Vipassana. Hein.
Ouais, c'est hardcore. C'est vraiment hardcore. C'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie, d'ailleurs. Et j'en ai fait des trucs un peu que j'ai trouvé difficiles, en tout cas personnellement. Mais oui, parce que si tu veux, je lance cette page des anti-sèches. Il y a une communauté qui se crée. À côté, je lance une chaîne YouTube parce que l'idée, c'est que d'un côté, je vais écrire des textes qui vont être un peu la... T'entends l'avion, là ?
Ouais, j'entends. Ça va ? Non, t'inquiète, ça va. Ouais.
D'un côté, je vais écrire des textes qui seront un peu la théorie de cette science du bonheur, hein. Et de l'autre côté, je vais faire des méditations qui sont la mise en pratique, parce que t'as besoin de mettre en pratique. Excuse-moi, j'ai oublié ta question.
Non, mais je disais que t'avais décidé de faire Vipassana tout de suite. Alors, j'ai pas précisé, mais peut-être tu peux réexpliquer ce que c'est que Vipassana.
Oui, oui. Alors, Vipassana, c'est donc une retraite de méditation qui dure 10 jours, pendant laquelle tous les jours tu médites 10 heures par jour dans le silence total. C'était assis à faire des exercices autour de l'attention, de la faculté humaine la plus importante, qui est notre faculté d'attention. À chaque nouveau moment de vie, j'ai le choix de porter mon attention sur tel ou tel type de pensée ou telle sensation dans mon corps. Ou telle sensation que me donnent mes sens, c'est ça que je veux dire quand je parle de sensation dans mon corps, ça peut être ce que je vois. Le travail de bonheur consiste à renforcer son attention et à savoir comprendre ce qui est à la racine de nos émotions. Et il y a des sensations physiques à la racine de toutes nos émotions, et à partir du moment où on est capable d'observer ces sensations physiques sans s'y attacher, alors on est capable de dépasser nos émotions, de dépasser en tout cas leur potentiel nocif. Et bref, donc juste pour revenir sur les méditations guidées, je proposais des méditations guidées un peu en tant que grand frère. Mais on commençait à me poser de plus en plus de questions sur la pratique de la méditation et à me voir comme un prof de méditation. Et moi, je me disais que je pouvais pas, tu vois, je méditais une quinzaine de minutes par jour, mais je me disais que pour avoir ce rôle un peu de prof de méditation, il fallait que je passe par ce rite de passage dans la méditation qu'est la retraite Vipassana. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à partir en Inde pour faire cette retraite.
Wow. Alors, est-ce que tu as la sensation d'avoir trouvé la légitimité de faire des méditations guidées après Vipassana ?
Ouais, plus, bien sûr. Plus.
Pour
parce que...
syndrome de l'imposteur, il était plus tranquille, c'est ça ?
Bah, c'est ça, exactement. Exactement. Okay. Tu commences à bien me décoder. T'as tout compris. Mais ouais. Ouais, non, et puis ça m'a cette expérience, elle a changé ma vie de Vipassana, parce que à partir du moment où tu comprends que tout en fait est sensation physique, il y a pas de pensée, d'émotion sans sensation physique à la base, et si tu mets un espace entre la perception de cette sensation physique et l'interprétation qu'en fait ton mental, alors t'es capable de redevenir maître de tes émotions.
Et t'as raison, en fait, c'est fou qu'on n'explique pas ça aux enfants à l'âge de 5 ans, quoi, tu vois.
c'est insensé. Et c'est pour ça que
ça changerait tellement la vie.
Ouais, ouais, mais c'est ça. Mais d'ailleurs, il y a un mouvement très important aujourd'hui qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur pour le yoga et la méditation à l'école. Et je pense que c'est en train de s'installer. Et que tu sais, une image que j'aime beaucoup répéter, c'est l'idée que au début du 19e siècle, il y avait seulement une minorité de personnes qui se brossaient les dents régulièrement,
ouais.
Et que au début du 20e siècle, il y avait seulement une minorité de personnes qui faisaient du sport régulièrement, et que là, au début du 21e siècle, il y a seulement une minorité de personnes qui pratiquent la méditation régulièrement. Mais ce qu'on sait de sources sûres, vu l'explosion des études scientifiques sur la méditation, et ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on comprend sur la tyrannie du mental, c'est que les générations futures, elles vont regarder notre génération actuelle de non-méditants comme nous, on regarde les générations passées qui ne se brossaient pas les dents et qui ne faisaient pas de sport.
Ouais, c'est évident. Enfin, je vois pas comment ça pourrait... Surtout si on se retrouve confiné là tous les 6 mois, on se retrouve confiné pendant 2 mois si tu veux.
C'est clair. Mais d'ailleurs, tu sais, j'ai une appli de méditation qui s'appelle Seven Mind, dont le but est d'aider des personnes qui veulent commencer une appli, une pratique de méditation. Et je parlais avec eux. Ils sont basés à Berlin. La pratique a augmenté énormément pendant le confinement. Parce que c'est comme si on avait augmenté le volume de la tyrannie du mental pour beaucoup et dans beaucoup de situations pendant le confinement. Donc plus que jamais, cette pratique elle devient vitale.
C'est passionnant ton parcours. Merci beaucoup Jonathan, vraiment c'était très cool comme interview. On pourrait encore parler pendant une heure. On pourrait refaire un deuxième épisode. Peut-être qu'on en refera un, mais en attendant, je vais te laisser vaquer à tes occupations. C'était vraiment super. Je vous invite à découvrir ce bouquin qui s'appelle Les Antisièges du Bonheur. Dedans, tu donnes 18 principes et pratiques, comme dit la quatrième de couverture, redoutablement efficaces pour diminuer l'impact et la durée de nos pensées et émotions négatives au quotidien. Donc, et effectivement, moi, il y a un autre truc qui m'a beaucoup plu, et c'est que, un peu comme tu t'écris comme tu parles, en fait, et je trouve que c'est vraiment, comme tu dis, t'as un rôle sans doute de vulgarisateur et de porte-voix par rapport à toutes ces pratiques. D'ailleurs, tu cites énormément d'auteurs, etc. Et je trouve que ça apporte une forme d'accessibilité en fait au bouquin qui est bienvenue, quoi. Voilà.
Ah, chouette. je te remercie, Fabrice. C'était vraiment cool de te parler.
Ah, bah, avec grand plaisir.
J'ai passé un très bon moment.
Bah, merci à toi. Et puis, je mettrai plein de liens dans les notes de ce podcast pour que vous puissiez suivre Jonathan sur les réseaux. Et puis, éventuellement, même si vous le souhaitez, acheter son bouquin, quoi. Ses bouquins, parce que t'en as fait deux.
Oui.
Un grand merci à toi. Je te souhaite le meilleur pour la suite.
Ça marche. Merci, Fabrice.
Salut.
Bye.